Bonjour, merci d'être au rendez-vous de cette émission qui, comme vous le savez, interroge ceux qui pensent le monde. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous allons parler de la place de l'islam en Afrique aujourd'hui dans le contexte que l'on sait. Peut-on parler d'ailleurs sereinement de ce sujet ? Oui, répond notre invité, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, dans un ouvrage dense mais très clair, passionnant, qui s'intitule « L'islam d'Afrique au-delà du djihad », dans lequel il écrit notamment ceci. La perception de la radicalisation et de la politisation d'un islam influencé par l'évolution de la situation au Moyen-Orient méconnaît les spécificités de la religion musulmane au sud du Sahara. Nous allons parler donc de ces spécificités avec lui dans ce nouveau numéro du magazine Idée, magazine que vous pouvez télécharger afin de l'écouter quand vous le souhaitez sur le site de la radio ou en tapant IDRFI par exemple sur votre moteur de recherche préféré. Bonjour Marc-Antoine Pérouse de Monclos.
Bonjour.
Et d'abord, je dois vous remercier d'avoir fait ce livre qui est une synthèse incroyablement riche et critique aussi sur l'état de l'islam aujourd'hui, un sujet qui est assez politiquement difficile à traiter.
C'est étonnant, hein, parce que dans le paysage éditorial français, il y a eu des ouvrages collectifs sur l'islam et le politique en Afrique subsaharienne, mais il n'y a pas d'ouvrage de synthèse. Il y en a dans le monde anglophone, mais pas en France. Il y avait vraiment une lacune. Alors c'est très ambitieux, hein, comme projet. Il y a évidemment des trous. Hein, c'est impossible de tout couvrir.
D'ailleurs, vous dites qu'il y a des trous dans les sources d'information déjà.
Il y a des trous dans les sources d'information, y compris sur les données quantitatives. Hein, combien il y a de musulmans. Et puis qu'est-ce que c'est qu'un musulman ? Est-ce que c'est celui qui fait ses 5 prières ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des musulmans honoraires ? Est-ce qu'il n'y a pas des musulmans de circonstance ? Donc il y a vraiment aussi beaucoup de débats, même sur la définition des différentes catégories qui sont censé définir l'islam.
Alors comment arrive-t-on à comptabiliser le nombre de...
Alors on a justement un programme...
C'est une évaluation.
Ben oui, on a un programme de recherche à ce sujet, justement, parce qu'il y a quelques pays africains qui ont des recensements qui posent des questions sur le religieux. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein, pas autant qu'on pourrait l'imaginer. Après, beaucoup de gens extrapolent, en fait. Il y a beaucoup d'imagination, beaucoup de chiffres un peu fantaisistes qui circulent. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les catégories que l'on utilise pour comprendre l'islam en opposant tout le temps le sophisme au salafisme. Et on a quelques grandes enquêtes qui ont été faites, notamment une tout à fait intéressante financée par la coopération hollandaise dans le nord du Nigeria, qui est le pays le plus peuplé d'Afrique, hein, il faut le rappeler, avec quelques 200 millions d'habitants, dont estime-t-on à peu près la moitié de musulmans. Et ce qui est intéressant, c'est que cette grande étude montrait, et on a des études plus fine et moins large sur le Burkina Faso ou le Mali, mais qui montre la même chose. En fait, l'essentiel des musulmans africains ne se reconnaissent pas comme soufis ou salafistes. C'est-à-dire que l'énorme débat qui nous agite, nous, académiques, ou bien les décideurs politiques, sur une opposition entre un soufisme qui serait tolérant et démocratique et puis un salafisme qui serait exogène d'importation arabe et porteur de valeurs terroristes, en réalité, ce débat-là, il est un peu décalé. Il y a des salafistes, il y a des soufis en Afrique, c'est absolument indéniable, mais la plupart des musulmans africains, de ce que l'on en sait, hein, ne se reconnaissent pas dans ces catégories. Et déjà, ça nous en dit beaucoup sur les éléments du débat sur la prétendue radicalisation de l'islam en Afrique.
Et un islam qui s'est répandu, on va revenir sur cette expansion, au détriment, j'allais dire, de l'animisme.
Oui, alors les grands réservoirs de conversion des religions du livre, hein, la chrétienté et l'islam, c'était effectivement les animistes. C'est un réservoir qui s'est quand même pas mal épuisé depuis la période des indépendances. Donc aujourd'hui, en fait, les changements de proportion de ce que l'on peut en savoir, ça se joue surtout sur la fécondité, et notamment au niveau de l'Afrique sahélienne qui connaît des records de taux de fécondité. Et donc c'est pour ça que, éventuellement, la proportion de musulmans va être amenée à augmenter en Afrique, pas à cause des phénomènes de conversion massive comme il y en a pu y en avoir autrefois. Ça n'existe plus. C'est pas là que ça se joue. C'est plutôt sur la fécondité, sur des différentiels, en sachant que les populations chrétiennes sont plutôt urbaines en Afrique de l'Ouest, par exemple, sur les côtes, et que on sent un petit frémissement avec une petite révolution, une transition démographique qui ferait que là, le différentiel va jouer pendant un moment en faveur des populations musulmanes du Sahel.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, pourquoi écrivez-vous dans ce livre, dès le début d'ailleurs, historiquement, je vous cite, « l'islamisation de l'Afrique a nourri de nombreux fantasmes ».
Oui, parce que même du temps de la colonisation, il y a eu beaucoup de méfiance. Oui. Paradoxal, hein, il y a eu des mariages contre nature, parce qu'en fait, tant le colonisateur britannique que français, et dans une moindre mesure aussi portugais d'ailleurs, se sont souvent alliés à des émirs ou des émirats, mais qui acceptaient de collaborer avec le colonisateur. Et c'est intéressant de voir qu'il y a eu des séquences où finalement l'islam a tantôt servi à justifier des répressions massives ou aussi des insurrections. Hein. Et ça, c'est des phénomènes que l'on voit réapparaître au cours de l'histoire. Il n'y a pas de régularité dans l'émergence de ces phénomènes. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est dans l'utilisation de l'islam comme contestation des pouvoirs établis, qu'ils soient musulmans ou non d'ailleurs, qu'ils soient coloniaux ou pas. Et là, en revanche, il y a une séquence qui se dessine et qui, elle, en revanche, se répète. Elle est vraiment cyclique. C'est-à-dire une contestation qui tourne mal, qui est durement réprimée, le bannissement ou l'exil. On monte un camp dans des zones un peu reculées, on agrège des supporters qui contestent les pouvoirs établis et on repart à l'assaut. Et quelquefois, on gagne. C'est-à-dire que les djihad d'autrefois, l'âge d'or des djihad en Afrique, en fait, c'est le 19e siècle. Là, effectivement, avec El Hadj Omar Tall, avec Ousmane Danfodio, on voit effectivement des révolutions islamiques, des djihad qui aboutissent à des proto-états islamiques, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Hein. Il faut mettre un peu aussi en perspective ce qui se passe aujourd'hui en termes de djihadisme au Sahel.
Avant de revenir sur un certain nombre de détails très importants, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, il faut s'arrêter sur la date, le moment où vous faites ce livre, qui est un moment où il est difficile de parler sereinement, je reviens à cette question, de l'islam, souvent considéré comme une religion de la violence, du djihad systématiquement.
Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous parlez d'islam en Afrique, et notamment en Afrique subsaharienne, tout de suite viennent à la tête les mots de terrorisme, de djihadisme, de violence. Et donc, il y a deux mots que je m'attache à déconstruire, qui à mon avis n'ont pas vraiment grand sens sur le plan historique, c'est le mot de politisation de l'islam et de radicalisation de l'islam. Alors permettez-moi de dire un petit mot sur la question
bien
de la
sûr,
politisation, puisque beaucoup de gens perçoivent l'islam comme une religion intrinsèquement politique. Mmh. Alors en quoi pourrait-on dire que l'islam d'aujourd'hui serait plus politique qu'il ne l'était hier, y compris avant la colonisation, quand finalement l'islam était au pouvoir, avec le califat de Sokoto, avec l'empire tout couleur, avec le Massina malien, etc. Ça n'a pas grand sens en réalité. On voit qu'il y a toujours une circulation de valeurs où le religieux influence le politique et inversement, le politique essaye de domestiquer le religieux et influence aussi les réflexions religieuses qui de temps en temps contestent des pouvoirs établis, considérés comme impies, de temps en temps les légitimes, vont les cautionner, avec aussi des profondes divisions dans les rangs des clercs islamiques, qu'on les qualifie de salafistes ou de soufis, d'ailleurs, peu importe de ce point de vue. Hein. Et donc, on voit que là, il y a toujours eu une forte dimension politique, et je vois pas en quoi l'islam serait plus politique lorsqu'il conteste les pouvoirs établis que lorsqu'il sert à les justifier. Et ce qui est intéressant, et là je tiens beaucoup à ce chapitre sur l'histoire, une histoire courte du djihad, comme je l'appelle dans ce livre, c'est qu'il y a une sorte d'amnésie commémorative sur les djihads d'antan qui aujourd'hui servent à asseoir la légitimité d'États post-indépendance, dont on rappelle qu'il y a existé autrefois un califat de Sokoto, un empire tout couleur, donc des éléments de proto-État islamique, mais qui aujourd'hui sont récupérés par les pouvoirs en place. Donc il y a tout un establishment musulman qui fait du djihad, des djihads d'autrefois, en fait, une valeur extrêmement positive et cautionnée par le colonisateur lui-même, qui finalement a conclu un espèce de mariage de raison avec les héritiers de ces djihad d'antan. Donc vous voyez, il y a aussi des retournements comme ça, historiques, assez intéressants à suivre.
À quel moment l'islam est-il apparu, ou est-elle, en tant que religion, apparue en Afrique, je veux dire, au sud du Sahara ? 8e siècle, en général, c'est la date que l'on... le moment que...
Avant l'islam. Avant l'islam, c'est étonnant, mais il faut rappeler que les premiers fidèles du prophète, il y a eu un premier hégir avant ce qu'on appelle l'hégir, qui est effectivement l'exil du prophète qui quitte la Mecque et qui va se réfugier à Médine, où il repartira à l'assaut de la Mecque. Mais il y a eu avant ça même quelques fidèles du prophète qui sont partis en exil dans l'Abyssinie chrétienne. Donc on va dire qu'il y a quelques traces d'islam, certes un peu furtives, vraiment dès le début, hein, dès le début de la construction de la tradition prophétique. Ensuite, bah, les grands mouvements se feront plus à travers le commerce, un peu à travers aussi la conquête militaire dans l'Afrique du Nord, mais ça va descendre assez vite bah, vers les côtes, hein, d'abord en Afrique de l'Est, mais aussi en Afrique de l'Ouest avec le Borno dès le 11e siècle. Voilà. Alors, ensuite, il y a différentes étapes. Il y a des grands moments d'islamisation qui sont paradoxalement d'ailleurs ceux de la colonisation, hein, qui a plutôt facilité l'islamisation en permettant de circuler plus facilement à travers le commerce. Le commerce a toujours été un élément très fort d'islamisation.
Et une sorte de ruissellement en fait de l'islam qui parle le biais, comme vous le disiez, des routes commerciales. C'est ça qui est intéressant, c'est que tout ça s'est installé avec lenteur.
Oui, avec lenteur, hein, il a fallu des siècles pour que l'islam se démocratise ou se massifie aussi, c'est-à-dire qu'il soit pas uniquement une religion de clercs, de conseillers du roi, vous voyez, que ça devienne aussi une religion populaire. Ça a pris des siècles, effectivement. Ça a suivi des grandes routes commerciales, alors maritimes vers l'Afrique de l'Est, avec des boutres, ça, ou des dos, ça a suivi aussi les routes caravanières transsahariennes. Donc là, il y a eu, c'est un islam multipolaire aussi, c'est ça que je trouve intéressant. Et un des éléments du livre sur lequel j'insiste beaucoup avec certains collègues africains, je pense à Ahmed Chanfi, par exemple, c'est de dire que c'est pas uniquement une religion importante du monde arabe. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, il y a la vision d'un islam qui serait finalement construit théologiquement uniquement par des Arabes, dont en fait la part dans le monde musulman ne cesse de diminuer hein, sur le plan démographique. Et on oublie que des Africains subsahariens ont eux-mêmes pu influencer les pratiques religieuses des musulmans arabes, y compris à la Mecque, y compris en Arabie Saoudite. Les musulmans africains se sont appropriés la tradition prophétique et non seulement ils se la sont approprié, en s'écartant peut-être du modèle originel, à voir, hein, il y a des contestations là-dessus, et c'est la critique que leur portent les salafistes, mais ils se sont appropriés et ils ont aussi influencé la façon dont on pense l'islam, y compris jusqu'en Arabie Saoudite, avec quelques théologiens qui ont enseigné à l'université islamique de Médine, par exemple. Donc vous voyez, ça joue un peu dans tous les sens, il y a des circulations d'idées, mais qui sont pas uniquement dans un sens d'exportation du monde arabe vers les mondes africains. Ça joue aussi dans l'autre sens, y compris à travers la migration. Et ça, je crois que c'est important de le souligner, de penser à cette circulation des idées, elle n'est pas en sens unique.
Parce qu'il y a l'Afrique du Nord, on l'oublie, il n'y a pas que la Mecque et puis l'Afrique subtropicale. Il y a l'Afrique du Nord, l'Algérie actuelle et la Tunisie, le Maroc.
Le Maroc, hein, avec des pèlerinages d'ailleurs de Tidjanes subsahariens qui vont à Fès pour vénérer le fondateur de la confrérie, etc.
Ah ben justement, nous allons nous y rendre, figurez-vous, à Fès pour ce pèlerinage. C'est un reportage qui date de juin 2019, réalisé par Théa Olivier. Une promenade, en fait, avec les pèlerins. Il faut savoir que chaque année, à peu près 1,5 million de pèlerins vont faire le pèlerinage de Fès. On va savoir pourquoi et on va en parler dans un instant.
L'appel à la prière résonne dans les petites rues de la Médina de Fès. Vêtus de leurs plus beaux vêtements traditionnels, des centaines de Sénégalais et ressortissants de l'Afrique de l'Ouest affluent vers la Zaouïa Tidjania. Ce lieu saint abrite le tombeau du fondateur de la confrérie soufie, Porohaya sénégalaise. Ce pèlerinage est incontournable.
Je viens depuis 3 ans parce que c'est mon cher de 1. De 2, je viens ici parce que je veux renouveler mon serment et je viens le voir, pas physiquement, mais en esprit. Après la prière du matin, subhanallah, c'était émouvant.
Le cher, c'est Sidi Ahmed Tidjani, descendant du prophète et fondateur au XVIIIe siècle de cette confrérie principalement répandue en Afrique. Elle compte plus de 200 millions de fidèles, dont nombreux sont au Sénégal. Brahim Tidjani est descendant du cher, il part prier avec les adeptes.
La Tidjania, c'est une confrérie de migration depuis son début, à l'image peut-être de l'islam aussi. Sauf que la Tidjania, il n'y a pas eu vraiment de prosélytisme, parce que c'est le cher qui l'a interdit dans sa confrérie. Mais on reçoit beaucoup de politiques, des ministres, des présidents aussi. L'islam du Sénégal, du Nigeria, sans parler de Boko Haram et des extrémistes qui sont apparus récemment, c'est un islam très tolérant et très ouvert, parce que ses origines sont soufis.
La Zaouïa accueille un pic de pèlerins la dernière semaine de Ramadan, explique Abdelaziz Ndoy, imam sénégalais.
On est venu pour se purifier, pour revivifier notre âme. C'est une occasion annuelle parce que c'est à l'occasion de la nuit du destin où Dieu décide pour nous.
Cet imam accompagne un groupe de 115 fidèles, un voyage spirituel organisé par une agence de voyage spécialisée à Dakar. Face à cet engouement religieux, les pèlerins et agences de voyage espèrent l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre Dakar et la ville marocaine spirituelle.
Vous écoutez RFI, magazine Idées. Nous parlons de l'islam avec notre invité Marc-Antoine Pérouse de Monclos qui vient d'écrire L'islam d'Afrique au-delà du djihad aux éditions Vendémiaire, un livre absolument passionnant. C'est intéressant ce qu'il y a dans ce reportage, cette ferveur de la part des pèlerins qui vont à Fès, qui était elle-même un haut lieu de l'islam. On dit que dans la Médina, il y a plus de 176 mosquées par exemple.
Oui, puis c'est intéressant, ça déconstruit notre regard où finalement on imagine que tous les musulmans africains regarderaient vers l'Orient, vers la Mecque. Il existe aussi d'importants sites de pèlerinage musulmans en Éthiopie, donc au Maroc, là, à Fès, au Sénégal également. Donc on voit qu'il y a vraiment un islam multipolaire, j'insiste là-dessus, vous voyez. Ça se joue pas dans un seul sens, vraiment.
Il faut s'arrêter sur cette notion de soufisme. De quoi s'agit-il exactement? Pourquoi ce soufisme a eu... autant de succès et fait la spécificité de l'islam en Afrique.
Alors c'est compliqué, c'est un peu comme la notion de salafisme qui est également très contestée finalement.
Parce que j'allais vous poser la question sur le salafisme.
Oui, voilà. Disons que le soufisme est souvent associé en Afrique à une organisation confrérique de l'islam avec des chaires qui transmettent la tradition prophétique, qui disent en être héritiers, qui ont des visions, donc ça peut tourner vers un islam assez extatique aussi, avec des transes, avec ce qu'on appelait autrefois les derviches tourneurs par exemple. Et c'est ce que critiquent beaucoup les salafistes qui veulent, eux, prétendre revenir aux origines de la religion, sauf que les soufis aussi disent vouloir revenir aux origines de la religion. Donc il y a une vraie compétition de ce point de vue sur qui détient l'islam authentique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un regard où finalement le soufisme est perçu comme un islam endogène africain tolérant face à un salafisme d'importation arabe qui serait radical. En fait, les grands djihad du 19e siècle étaient portés par des doctrines soufis, notamment les tijanes, qui aujourd'hui personnifient cet islam tolérant, mais qui était extrêmement sectaire, puisqu'ils interdisaient aux musulmans de la secte, comme on dit au Nigeria, enfin de la confrérie tijane, de se marier avec des musulmans qui ne seraient pas d'obédience tijane, ou de même de discuter avec eux, ou d'interagir avec eux, ou de commercer avec eux. C'était extrêmement sectaire. Et donc le djihad de l'Empire tout couleur, d'Eladjo Martal, était aussi extrêmement dur, violent. Mais c'était une autre confrérie, la Kadiria, qui a porté aussi le djihad du califat de Sokoto dans l'actuel Nigeria. Et je cite là des témoins de première main, hein, pas des gens qui racontent des récits qu'on leur aurait portés de ces djihads. Très franchement, en termes d'atrocité, de démembrement des corps de l'ennemi, dont on laisse les dépouilles, les viols, la capture des esclaves, ça n'a rien à envier aux atrocités que commettent les groupes djihadistes d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que l'islam serait une religion intrinsèquement violente. Ça veut dire que quand il y a des situations qui amènent à des insurrections, on va utiliser évidemment le religieux. Et d'ailleurs, là-dessus, il n'y a pas une spécificité islamique. Mais ne l'oublions pas, les djihad d'autrefois étaient extrêmement violents. Il y a des atrocités qui, franchement, il y a tout un chapitre aussi sur la question des nouveautés dans l'emploi des violences aujourd'hui qu'il faut relativiser. Hein. La décapitation n'a rien de nouveau. Et même la question de l'attentat suicide peut être, d'une certaine manière, remise en perspective dans les histoires africaines que l'on connaît de l'Afrique musulmane.
Alors, ces djihads ont eu lieu à différentes périodes de l'histoire et continuent d'ailleurs. Pourquoi le 19e siècle a-t-il secrété autant de djihads finalement?
Alors, grave question et n'étant pas...
Parce que, par exemple, le Soudan, il y a le soulèvement mahdiste, il y a le califat de Sokoto, évidemment, 1804-1903, il y a la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie, Ahmed le Gaucher, il y a de belles cartes dans votre livre qui permettent de bien comprendre. Le 19e siècle, l'époque de la colonisation et l'époque des djihad.
Alors, certains historiens remettent ça maintenant en perspective dans une histoire globale de révolution de la pensée. C'est-à-dire qu'ils disent même que, la révolution islamique du califat de Sokoto, elle démarre presque en même temps que la révolution française. Et donc, ils remettent ça en perspective dans des mouvements philosophiques, des mouvements d'idées politiques qui vont agiter énormément. Et ce qui est intéressant, c'est que certains de ces djihads démarrent comme des révoltes fiscales contre la taxation, contre l'oppression de pouvoirs qui se disent musulmans mais qui sont déclarés comme impies. Et ils vont aussi se monter, paradoxalement, contre l'esclavage des musulmans, mais pas l'esclavage des non-musulmans. Là, en revanche, ce sont des djihads qui vont déboucher sur des proto-états islamiques, qui seront des grands états prédateurs, qui vivent de l'esclavage. Mais il y a une petite part de ces djihad qui sont abolitionnistes dans le sens où ils s'insurgent contre le fait de capturer des musulmans et de le revendre aux Européens sur la côte. Donc il y a quelque chose d'assez complexe à appréhender là. Je pense que le 19e siècle, de ce point de vue, a été un siècle de révolution, effectivement, et pas seulement en Europe.
De la même façon, Marc-Antoine Perrouse de Monclos, vous déconstruisez la notion de salafisme en Afrique, hein, 100 ans, et vous nous dites qu'il faut se méfier de l'image accolée à ce terme salafisme, qu'il ne faut pas confondre d'ailleurs avec le wahhabisme.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des équations qui sont faites un peu rapidement, je vais essayer de le faire simple.
Ouais.
Les wahhabites sont tous salafistes, mais ne se désignent pas eux-mêmes comme wahhabites. En revanche, tous les salafistes ne sont pas wahhabites. Les wahhabites sont drites en balites, mais il peut y avoir des embalites soufis, même si c'est pas très fréquent.
Donc wahhabisme, c'est l'Arabie Saoudite, directement.
Le wahhabisme, c'est l'Arabie Saoudite. Hein. C'est Mohamed Al-Wahhab, un théologien qui, effectivement, va faire une alliance avec un émir local et monter ce qui deviendra ce qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Donc, il y a un discours convenu qui est de dire que l'Afrique subsaharienne a été complètement inondée par ce wahhabisme qui expliquerait les mouvements insurrectionnels qualifiés de terroristes aujourd'hui. Je crois qu'on va un peu vite en besogne et on désigne comme wahhabites des gens qui sont pas plus wahhabites que vous et moi. C'est-à-dire qu'ils sont d'abord de tradition malékite, hein, parce qu'en Afrique de l'Ouest, l'islam est de rite malékite. Vous savez, il y a quatre grandes écoles juridiques et canoniques dans l'islam, dont le rythme malékite.
Donc, sunnisme malékite, hein.
Alors, sunnite.
Pour l'essentiel.
Donc, pas
chiite,
hein, il y a très peu de chiites en Afrique, donc ils sont sunnites et en Afrique de l'Ouest, ils sont essentiellement de rite malékite. Et donc, on désigne comme wahhabites des gens qui sont de rite malékite, alors que les wahhabites sont de rite ambalite. Donc, c'est un petit peu comme si on m'expliquait pour un criminologue que Staline était trotskiste, vous voyez.
Ah oui.
Soit on prête attention aux rites et aux doctrines, et dans ce cas-là, on peut pas dire n'importe quoi. On peut pas dire que l'imam Diko au Mali est un wahhabite. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, le salafisme, en fait, est une notion assez vague, assez plastique, et qui revêt de nombreuses composantes. Il y a des salafistes quiétistes, qui sont plutôt dans le repli et dans la retraite spirituelle. On se retire du monde politique, on n'interfère surtout pas sur le politique. D'autres qui, effectivement, sont plutôt activistes pour jouer sur les élections, du type frères musulmans. D'autres qui vont, effectivement, basculer dans la violence, djihadistes. Et en fait, ce que je dis dans le livre, c'est que à l'intérieur de ces grandes catégories, et je le rappelle encore une fois, ces grandes catégories soufis et salafistes, en fait, ne couvrent pas l'essentiel des musulmans d'Afrique de ce que l'on en sait, ne se reconnaissent pas dans ces catégories. Donc déjà, c'est quand même un débat un peu limité à des théologiens ou des politistes ou des historiens. Et d'autre part, effectivement, à l'intérieur de ces grandes composantes soufis et salafistes, vous avez des variations qui sont bien aussi importantes entre des radicaux à l'intérieur du monde soufi et des quiétistes, ou bien aussi des radicaux à l'intérieur du monde salafiste et des quiétistes. Ces variations sont bien aussi importantes que celles que l'on dessine aujourd'hui entre les soufis, qui seraient uniquement tolérants, dit-on, et puis les salafistes, oubliant toute cette histoire passée des djihad anciens qui étaient, eux, portés par des doctrines salafistes. Donc j'invite effectivement à aller un petit peu au-delà des représentations générales, d'affiner et de se rendre compte qu'il y a énormément de subtilités, de nuances à l'intérieur de toute cette pensée islamique.
Touba, Daru Salaam, Min farlu gawte dunya mi pais, Di woru ay gache nijas, Duru kulan te dunas, Kuweti la jangri chafas. Touba, Daru Salaam, Touba, Darussalam, Touba, Darussalam, Darussalam, Touba, 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 Gawu, Nikonga Ubi As, Mugan yo tok banal khala Sakul mali nak de du jas Kien le fanan masi o kas Allah, 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 Allah.
Salah, Darussalam, Touba.
Idée,
Darussalam.
La parole à ceux qui pensent le monde.
Vous avez sans doute reconnu Youssou N'Dour qui chantait la ville sainte de Touba au Sénégal, fondée par Amadou Bamba, le père de la confrérie Mouride. Alors Marc-Antoine Pérouse de Monclos, dans ce numéro d'idées consacré à l'islam d'Afrique, il nous faut évidemment parler des madrassas, de ces écoles coraniques qui méritent à elles seules un magazine, parce que
oui.
C'est un sujet très important sur la perpétuation de l'islam, sur l'enseignement. Et je vous propose d'écouter un reportage de Lisa Fabian au Nigeria, réalisé à 70 km à peu près de Kano, donc une zone sensible, en juillet 2021 sur une expérience de l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies chargée de l'enfance, qui essaie d'ajouter à l'enseignement coranique l'éducation occidentale traditionnelle. Écoutez ce reportage donc signé Lisa Fabian.
Les chants des enfants qui récitent leurs leçons résonnent dans les rues de Dambata. Ces écoliers sont scolarisés dans l'une des très nombreuses écoles primaires islamiques que compte cette grosse bourgade de plus de 200 000 habitants à 70 km de la grande ville de Kano. Dans le nord du Nigeria, les écoles gouvernementales inspirent la méfiance. Une crainte héritée de l'époque coloniale et de l'introduction de l'éducation occidentale par les missionnaires chrétiens au Nigeria. Wasilu Adamu est le proviseur de l'école primaire islamique de Lea Street.
La majorité des matières enseignées ici ont un lien avec l'islam. C'est la différence, car dans les autres établissements scolaires, peu de sujets ont un lien avec la religion.
Son établissement, qui compte plus de 590 élèves, est l'une des 35 écoles d'enseignement islamique dans lesquelles une partie du programme classique a été intégrée par l'UNICEF. Addis Abdou Mustapha est l'un des enseignants ayant bénéficié d'une formation.
Nous avons introduit des enseignements de calcul et d'alphabétisation. Aujourd'hui, nos élèves réussissent leur examen et peuvent même poursuivre leurs études dans d'autres écoles. Ils connaissent bien le Coran et ils connaissent bien l'anglais aussi.
Au-delà de l'introduction de ces matières, les professeurs ont été formés à de nouvelles méthodes pédagogiques qu'ils peuvent ensuite partager au sein de leur école. Résultat, 72 enfants issus de cette école islamique ont pu poursuivre leur éducation au collège l'année dernière. Une fierté selon Bello Lawan, représentant des parents d'élèves.
J'envoie mes enfants dans une école coranique parce que je veux qu'ils apprennent leur religion. Mais avec le temps, on a accepté qu'au-delà de l'enseignement coranique, ils soient aussi exposés à l'éducation occidentale. Cette école nous rend fiers. Non seulement nos enfants apprennent l'anglais, les mathématiques, mais même des bases d'informatique.
L'intégration de ces établissements permet aussi de mettre l'accent sur l'éducation des filles, selon Muntaka Mouktar Mohamed, spécialiste éducation pour l'UNICEF à Kano.
L'un de nos objectifs premiers, c'est d'offrir un accès égal à l'éducation basique pour les petites filles, où qu'elles soient. Dans toutes ces écoles coraniques dans lesquelles nous intervenons, la majorité des élèves sont des filles, car les parents préfèrent les envoyer dans ce genre d'établissement. Donc c'est déjà une avancée.
Le programme mené par l'UNICEF en collaboration avec l'État de Kano concerne aujourd'hui 420 écoles coraniques sur les plus de 13 000 implantées dans la région.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, que pensez-vous de ce reportage ? Vous paraissez très dubitatif.
Oh, pas sur la qualité du reportage, les tentatives de l'UNICEF d'introduire...
Excellent reportage, mais sur le sujet.
Oui, je précise les choses. Non, d'introduire les tentatives de l'UNICEF ou d'autres organisations, USAID, etc., d'introduire un enseignement sur des thèmes, sur des matières profanes dans les écoles coraniques. Il y a eu beaucoup de tentatives qui n'ont pas forcément abouti, parce que de toute façon, le système éducatif dans un pays comme le Nigeria, que ce soit dans le public ou soit dans le privé ou disons dans les écoles religieuses, il est déjà en très très mauvais état. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un investissement. On est sur un pays de 200 millions d'habitants avec, une proportion de pauvres qui maintenant serait un record mondial. Donc il y a vraiment un effort fantastique à fournir. Donc on vous cite il y a un petit côté village Potemkin, vous voyez, une ou deux écoles coraniques où là on a fourni quelques craies, un tableau noir, etc. mais ça reste quand même une goutte d'eau dans l'océan. Ce qui est important, je crois, de comprendre, c'est qu'il y a école coranique et école coranique. Les madrassas étant d'ailleurs un peu des lycées, hein, un établissement islamique supérieur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment distinguer ce qui relèverait d'une école coranique dans le village, à l'ombre du baobab, où on se met en cercle autour d'un marabout, hein, qui va vous enseigner quelques sourates du Coran qu'on va apprendre par cœur, d'une école islamique qui, elle, serait dans un bâtiment en dur, dans les villes, qui s'adresse déjà à une couche de population plus éduquée, et qui d'ailleurs va souvent se jouer de façon complémentaire avec l'enseignement dans l'école publique. Donc on va aller ensuite effectivement faire son catéchisme islamique, si on peut dire, dans ces écoles coraniques, qui elles sont pas en cercle autour du marabout, mais effectivement avec des élèves en rang, avec un tableau noir, il y a un toit, là on est déjà dans une forme d'enseignement de l'islam et du Coran et des textes sacrés, des hadiths, qui est très ou de la biographie du prof, de la vie du prophète, qui sont quand même très différentes de ce qu'on peut avoir au niveau du village. Et puis, vous avez des instituts de formation théologique qui vont encore beaucoup plus loin. Donc, il y a quand même un éventail, vous voyez, d'écoles coraniques à travers ce mot qui est quand même assez divers, hein, il faut le prendre en compte.
Écoles coraniques, Marc-Antoine, qui ont suscité chez les musulmans un rejet parfois, un scepticisme. Vous expliquez que à une époque ancienne, d'après une enquête menée dans le nord du Tchad, les trois quarts des parents de la région de Wadaï, notamment, refusaient encore d'envoyer leurs enfants à l'école publique en 1970, mais c'est pour ça qu'ils l'envoyaient, ils envoyaient leurs enfants à l'école coranique.
Oui, ils l'envoyaient à l'école coranique. Donc, en fait, il y a eu, au moment des indépendances, on a beaucoup musé sur l'école publique laïque et on a complètement délaissé les écoles coraniques qui ne recevaient pas du tout de soutien de l'État, finalement, ou très très peu. Hein. C'était négligeable, c'était pas dans l'air du temps. L'air du temps était plutôt progressiste et laïque à l'époque, hein, y compris notre vision de ce que devait être l'État en Afrique. Mais sur le plus long terme, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avant la colonisation, finalement, l'islam, c'est la civilisation, c'est la religion universelle du moment à une époque où il y a très très peu de chrétiens en Afrique et qui donc conditionne l'accès au savoir. Si vous regardez l'état de l'enseignement islamique aujourd'hui, on peut dire que le déclin a été formidable. Il n'y a plus du tout de monopole de l'islam en la matière, hein, dans l'accès au savoir, non seulement à la connaissance de Dieu, mais souvent dans le monde musulman, on fait une équivalence entre la connaissance des dieux et la connaissance du monde, finalement. Et ça, c'est complètement terminé, et plus personne ne le remet vraiment en cause. Donc ce qu'on voit au moment des indépendances, c'est que les grandes élites musulmanes vont effectivement placer leur rejeton dans des écoles, y compris des écoles chrétiennes, parce que l'école publique n'y suffit pas. Et donc très souvent, l'enseignement de qualité est fourni par les missions chrétiennes. Donc on voit beaucoup de musulmans de l'élite qui sont formés dans des lycées chrétiens.
Un des temps forts de votre livre, c'est ce moment où vous expliquez aussi le rôle des États par rapport à à l'islam, aussi bien au moment de la colonisation qu'au moment des indépendances.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a eu la volonté des États de domestiquer le religieux.
De l'instrumentaliser
pour se légitimer et effectivement de le contrôler à travers l'enseignement, le contenu de l'enseignement des écoles coraniques, des médersas, la formation des imams. Le colonisateur avait entrepris de faire ça, mais ça coûtait cher et en fait il n'avait pas vraiment les moyens de le faire, y compris les Français, donc c'est pas allé si loin que ça. Les Britanniques l'ont fait aussi, hein. Ils ont monté des instituts de formation islamique pour former les imams, pour que ceux-ci soient plutôt acquis à la colonisation. Et à l'indépendance, il y a eu un héritage qui a été repris, mais en fait, c'est pas allé très loin non plus. Et puis, les grandes crises économiques des années 80 ont balayé du revers de la main les tentatives de contrôle de l'islam, qui aujourd'hui sont réveillées par les affaires terroristes. C'est-à-dire que de nouveau, les États font mine de vouloir reprendre la main sur le religieux. Donc il y a beaucoup d'organismes qui se montent pour essayer de contrôler ça, y compris dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque, hein, qui est aussi un marché assez juteux, mais qui pour l'instant ont du mal à aboutir, hein, ces tentatives de contrôle.
Il y a une autre période importante, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, c'est la fin de la guerre froide. et la fin des partis uniques en Afrique avec la création d'associations et de partis qui se revendiquaient de l'islam.
De l'islam. Alors, je rappelle que le temps de la guerre froide a en quelque sorte occulté la rémanence des forces religieuses, y compris
islamiques. Ça aussi, vous le précisez dans
le livre. Ça, c'est très important parce qu'on vous dit, ah, il y a un réveil de religieux à la fin de la guerre froide. En fait, le religieux devient plus visible parce qu'il peut effectivement s'exprimer sous une forme associative. Il y a des radios islamiques qui se mettent en place, etc. N'empêche que dans les deux plus grands pays musulmans de l'Afrique subsaharienne, à savoir le Soudan et le Nigeria anglophone à l'indépendance, les plus grands partis au pouvoir sont en fait des partis musulmans qui sont portés par des confréries soufis. Donc, il n'y a peut-être pas le mot « islam » dans leur intitulé. De toute façon, la plupart, à quelques exceptions près, la plupart en fait des constitutions africaines continuent d'interdire l'usage d'un mot. On ne peut pas avoir un parti démocrate chrétien, un parti islamique, c'est interdit. Même en République islamique de Mauritanie d'ailleurs, qui interdit à ce qu'un parti se revendique comme ayant l'exclusivité du titre islam, vous voyez. Donc, on n'a pas le droit, constitutionnellement, en Mauritanie, en République islamique de Mauritanie, d'avoir un parti politique qui serait le parti de l'islam. C'est interdit aussi.
Prenons l'exemple, Marc-Antoine, de la Côte d'Ivoire, que vous citez dans ce livre très riche. Vous écrivez « Seule formation autorisée depuis l'indépendance en 1960, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le fameux PDCI, par exemple, avait confié à l'un de ses députés, Mustapha Diaby, Koweït, entre guillemets, le soin de présider le Conseil supérieur islamique qui était censé défendre les intérêts des musulmans du pays. Mais l'introduction du multipartisme a bouleversé la donne. À partir de 1990, de nombreuses organisations musulmanes ont vu le jour et en réaction aux intrigues de Mustapha Diaby, certaines ont préféré se fédérer sous l'égide d'un Conseil national islamique créé à Abidjan en 1993. C'est intéressant ça.
Oui, c'est un exemple parmi d'autres. On a aussi le Cameroun où on voit en fait, au sortir de la guerre froide, avec le multipartisme, ça c'est surtout l'Afrique francophone, parce que l'Afrique anglophone est sur un calendrier un peu différent, mais on voit effectivement émergence, on voit toute la pluralité du monde musulman. Elle apparaît beaucoup plus visible et donc les conseils islamiques que les pouvoirs autoritaires de la guerre froide avaient tenté de mettre en place sont contestés, même en Tanzanie par exemple. Donc on voit plusieurs conseils islamiques émerger. Au Mozambique, qui était une république socialiste, d'inspiration marxiste, on voit aussi émerger deux organisations parallèles qui chacune revendiquent la représentation des intérêts des croyants musulmans dans le pays. Et donc c'est ça aussi le pluralisme. Donc ça rend les choses plus visibles, ça ne veut pas dire qu'elles n'existaient pas avant, et je décris quelques cas, notamment au Tchad pendant les guerres civiles des années 60-70, où il y a eu une tentation islamique aussi, une tentation d'introduire un agenda religieux dans les insurrections des musulmans du Nord qui se sentaient délaissés par un pouvoir qui était plutôt détenu par les chrétiens du Sud, sachant que les chrétiens avaient bénéficié des écoles de mission, donc naturellement aux indépendances, et c'est quelque chose qui vaut aussi pour le Nigeria, dans la fonction publique, il fallait un certain nombre de diplômes pour acquérir... pour être recruté, et donc il y avait effectivement une domination chrétienne assez forte. Et donc ça a aussi entraîné des décalages dans l'accès au pouvoir, qui explique aussi pourquoi des musulmans ont pris les armes dès le moment des indépendances, peu après les indépendances. Donc, certains ont été tentés d'intégrer du religieux, d'intégrer un agenda religieux, mais ça à l'époque on le voyait pas, parce qu'on était complètement obsédé par une lecture des conflits africains comme opposant uniquement des communistes à des capitalistes.
Est-Ouest,
voilà, c'était Est-Ouest, et donc tout le reste était mis sous le boisseau.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, vous parliez tout à l'heure des différentes écoles coraniques du village avec au pied du baobab, à l'ombre du baobab, mais vous notez aussi dans le livre l'importance des villes aujourd'hui.
C'est ça. Le grand propos que je porte dans ce livre, c'est de dire qu'il faut aller au-delà des représentations sur une prétendue politisation ou radicalisation de l'islam et que les changements se jouent ailleurs. Il se joue dans l'urbanisation de l'islam, ça c'est extrêmement important, parce qu'effectivement la circulation des idées islamiques se fait autrement. Il se joue aussi peut-être dans ce que certains décèlent comme étant une féminisation de l'islam, mais je suis trop mal placé, j'ai pas assez, je le mets en conclusion, parce que c'est vraiment un domaine qui mériterait d'être davantage exploré. Et puis pour moi, la grande révolution finalement de l'Afrique musulmane, si on regarde un peu sur le temps long, au cours des deux, trois derniers siècles, c'est que les musulmans sont maintenant face à des États, et deux, les chrétiens, en fait, on peut parler d'une christianisation de l'Afrique au XXe siècle. On estime, alors les chiffres sont toujours disputés, mais que au début du XXe siècle, vous avez peut-être un tiers de musulmans en Afrique et 10% de chrétiens. Aujourd'hui, on est à 40-50% de chrétiens, toujours un tiers de musulmans, mais ce chiffre va sans doute augmenter. Et puis, vous avez une part qu'on a du mal à évaluer, on a du mal à rentrer dans les catégories un certain nombre d'Africains qui sont pas forcément animistes. Et il y a notamment, et ça je le signale aussi en conclusion, il y a tout un domaine qui mériterait d'être exploré, c'est l'athéisme, ou bien aussi ces musulmans honoraires qui se disent musulmans à cause de la pression sociale, mais qui n'en pensent pas moins, vous voyez. Et ça, c'est des choses qu'on a beaucoup de mal à évaluer. C'est-à-dire que nous, chercheurs, on a un peu ce défaut, mais ça vaut aussi pour les journalistes, excusez-moi, ou pour les dissidents
politiques. Nous avons un certain nombre de défauts.
De se focaliser, voilà, on se focalise sur les mouvements religieux extrémistes, oubliant qu'il y a une majorité silencieuse, et là on ne sait pas très bien ce qui se passe en fait.
Et il faudrait s'interroger aussi, ce que vous faites d'ailleurs dans le livre, Marc-Antoine, sur le lien qu'il y a entre l'islam, l'islamisation, le djihad d'aujourd'hui avec la mauvaise gouvernance des États africains. Parce qu'il y a une dimension politique évidente.
Je l'ai déjà dit dans beaucoup d'autres ouvrages. Je pense que les révoltes qualifiées de djihadistes aujourd'hui sont nées de la mauvaise gouvernance des États. Donc le djihadisme au Sahel aujourd'hui n'est jamais qu'un symptôme de la crise des États au Sahel. Donc on peut en avoir une lecture religieuse, il y a des éléments religieux, je ne le nie pas. Mais fondamentalement, c'est pas la radicalisation de l'islam qui explique les violences d'aujourd'hui qui déchirent le Sahel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand défi des musulmans, c'est d'apprendre à vivre dans des États prédateurs et corrompus et autoritaires. Et ça, l'islam peut peut-être leur apporter des solutions, et certains disent que l'islam peut aider à démocratiser les sociétés. Il y a un chapitre qui montre que justement, il y a des séquences historiques où de temps en temps, les salafistes sont du bon côté, du côté des démocrates qui renversent des dictatures autoritaires qui s'appuyaient sur les confréries soufis, qui étaient l'establishment musulman. Par exemple, au Mali en 91. Les salafistes applaudissent le renversement de la dictature Traoré. Et ils considèrent que les étudiants tués par l'armée malienne en 91 sont des martyrs du djihad. Parce que le djihad, vous savez, a plusieurs significations. C'est d'abord un effort de maîtrise de soi. Et puis, aujourd'hui, on en a plutôt un entendement militaire. Ce mot peut revêtir cet aspect, effectivement, de lutte armée, de défense de la religion par les armes. Mais il y a d'abord cet aspect de mobilisation, finalement. Alors, ça peut être pour du développement personnel, spirituel. Ça peut être aussi dans de la mobilisation collective contre des pouvoirs autoritaires et donc considérés comme impies. Et donc, il y a eu des séquences, mais il y en a eu aussi au Maroc, pas seulement en Afrique subsaharienne, où les salafistes, à un moment, étaient porteurs. Il y en a eu en Mauritanie aussi. J'ai quelques développements avec notamment l'appui de chercheurs d'origine mauritanienne qui ont produit des ouvrages tout à fait remarquables à ce sujet, qui montrent comment le parti salafiste du pays a, à un certain moment, était finalement le parti qui portait une demande de démocratie. Ce qui va effectivement à l'encontre de l'idée que le salafisme égale obscurantisme et que le soufisme serait lui plus démocratique. Je crois qu'il faut vraiment regarder plus en détail.
Et quand l'islam est au pouvoir et elle prend une dimension politique, c'est souvent un échec. C'est ce que vous expliquez aussi dans
le livre. C'est très difficile que le religieux effectivement arrive à gouverner. Et d'ailleurs, souvent, les religieux prennent leur distance avec la gestion du politique qui s'allie forcément. Donc, assez vite, on voit... Alors, il peut y avoir des religieux opportunistes qui se saisissent de l'instant politique pour essayer d'arriver au pouvoir. Ça peut arriver. Mais on voit aussi beaucoup de clercs musulmans qui vont donner des consignes de vote, qui vont critiquer les régimes en place, leur corruption, leur impiété, ils s'occupent pas assez des pauvres, ils sont pas assez charitables, etc. Mais qui, en même temps, ne veulent pas se mêler directement de politique. Et pour moi, quelqu'un comme l'imam Diko, dont on parlait un petit peu tout à l'heure au Mali, il est un peu encore sur cette phase. On le sent hésitant. Est-ce qu'il va franchir le pas? Certains ont franchi le pas, comme Hassan El Tourabi. Ça lui a pas vraiment réussi, il a fini en tôle, son projet de révolution islamique s'est très mal terminé, le pays finalement a été divisé en deux, et aujourd'hui, on peut dire que la révolution islamique soudanaise a complètement échoué. Donc il y en a qui ont essayé de franchir le pas, qui se sont jetés dans la mêlée politique, et généralement ça ne leur a pas réussi.
En revanche, la dimension culturelle de l'islam est très importante et prégnante en Afrique. Il y a la dimension religieuse, d'évidence, mais aussi la dimension culturelle au sens
large. Oui, il y a une culture islamique extrêmement forte qui gouverne souvent les relations sociales, le mariage, les modes d'héritage, ce qu'on appelle aussi la charia, qui est pas uniquement un droit pénal qui punirait de la lapidation, les femmes adultères, ou ce qui est extrêmement rare en réalité, ou bien aussi les criminels en les amputant. Il y a aussi la charia, c'est tout un mode de vie, un code de conduite qui donc encadre aussi les relations entre hommes et femmes, les relations sociales, les relations de voisinage. Et là, il y a effectivement, on voit se profiler la rémanence de modes de résolution des conflits qui utilisent le corpus islamique pour trancher ces conflits de manière pas forcément violente. Ça aussi, c'est un domaine domaine qui mériterait d'être davantage exploré.
Autre question contemporaine, vous y répondez dans le livre, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, est-ce qu'il y a aujourd'hui en Afrique une recrudescence de la pratique religieuse?
C'est très difficile à évaluer. Beaucoup de gens vous disent, ah oui, les femmes sont plus voilées, donc oui, ça traduirait un retour du puritanisme. Ils disent pas un retour du puritanisme, ils disent, voilà, il y a une radicalisation des pratiques religieuses, etc. Bon, d'abord, l'histoire du voile, elle est très ancienne, elle ne concerne d'ailleurs pas que les femmes, hein. Il y a des hommes qui étaient voilés aussi autrefois. Je vais pas revenir sur toutes ces histoires assez anciennes. Je crois qu'il faut aller au-delà des représentations. Mais on n'a pas de comptage, par exemple. On vous dit, il y a une montée du salafisme parce que tel imam, alors les imams sont souvent beaucoup plus affiliés que les croyants, hein. Ceux qui fréquentent la messe, les fidèles, eux disent dans les sondages qu'ils ne sont ni soufis ni salafistes. En revanche, les imams, eux, sont plus affiliés à des grands courants de pensée, effectivement. Donc si vous faites un sondage uniquement au niveau des imams, là, vous aurez une proportion de salafistes et de soufis qui sera bien, bien supérieure. Et donc, on vous dit, regardez, cette mosquée est tenue par un salafiste, il y a beaucoup de gens qui y vont. Mais c'est souvent des phénomènes de voisinage, ils sont dans des quartiers extrêmement populaires, et donc on va à la mosquée la plus proche pour écouter les sermons du vendredi. Mais ça ne veut pas forcément dire que l'on devient salafiste, vous voyez. Et ça, c'est très difficile à mesurer. Et donc, mettons aussi complètement à part le basculement dans la violence de certains groupes comme Boko Haram, la Katiba Massina dans le centre du Mali. Ça, c'est encore une autre histoire. Et on peut pas aller dans les quelques minutes qui nous restent dans le détail, mais il y a quelques cas où effectivement, ce sont des groupes qui ont d'abord été portés par des religieux. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'avec l'usure du temps et du combat, les militaires tendent à prendre le dessus. Donc, on s'écarte du religieux au fur et à mesure que ces conflits perdurent. Et d'autres fois, ce sont des insurrections qui étaient portées par d'autres arguments, y compris sur la frontière aujourd'hui entre la RDC et l'Ouganda, dans lequel on a injecté délibérément du religieux pour donner de l'importance à ces insurrections. Donc il y a différentes modalités, mais qui méritent d'être étudiées de beaucoup plus près et qui de toute façon ne sont pas représentatives des grands changements de l'islam aujourd'hui.
De l'islam, on y prête beaucoup dans l'ensemble de l'Afrique.
Dans l'ensemble de l'Afrique, l'urbanisation ou une éventuelle féminisation de l'islam sont des phénomènes beaucoup plus importants.
Mais c'est la violence qui
Alors la violence est très très visible, mais encore une fois.
Que c'est pas nouveau.
Non, c'est pas du tout nouveau. À mon avis, les djihad du 19e siècle ont été beaucoup plus violents et ont une portée mortifère beaucoup plus importante qu'aujourd'hui.
Ce qui n'excuse rien.
Simplement, il faut remettre en perspective penser à cette espèce d'amnésie commémorative où il y aurait eu des bons djihad qui auraient eu effectivement un agenda religieux pur, entre guillemets, au 19e siècle, ce qui serait plus le cas aujourd'hui. Je crois que là, il y a des contresens historiques, je pense.
Et c'est pour lutter contre ces contresens, manifestement, que vous avez eu le besoin d'écrire ce livre. On sent que il répond à la limite à une colère.
Pas une colère, mais un besoin, parce que moi je travaille au départ sur des mouvements insurrectionnels. Je suis pas islamologue, je le dis d'emblée dans l'introduction du livre. Je parle pas arabe, et en même temps, en étudiant des mouvements.
Vous connaissez très bien l'Afrique.
Je connais, j'ai beaucoup sillonné le Nigeria, j'y ai vécu, puis j'habitais un moment au Kenya, etc. Donc j'ai interviewé des gens comme Hassan El Tourabi, l'imam Diko, des grandes figures de l'islam politique. Alors, 30 ans de carrière de recherche, on a le temps quand même. Et effectivement, je me suis interrogé sur le rôle que pouvait jouer l'islam dans des phénomènes de violence. Et cette relation entre islam et violence, elle mérite encore et toujours d'être étudiée, d'être suivie, d'être réactualisée. Et je trouve qu'il y a beaucoup de poncifs qui méritent d'être démantelés. Même si je ne nie pas qu'il y ait aussi une dimension religieuse dans les mouvements djihadistes d'aujourd'hui, mais à mon avis, cette dimension, elle est secondaire. C'est pas ça le moteur essentiel de ces rébellions.
Merci Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Il faut lire votre livre épais, très complet, très agréable, un bel objet en plus, qui s'intitule « L'islam d'Afrique au-delà du djihad », publié aux éditions Vendémiaire, avec des cartes. Et ça, j'adore les cartes, parce qu'elles expliquent beaucoup de choses.
Tout à fait. Faut dire merci au cartographe Eric, qui m'a beaucoup aidé.
Eh bien, on dit merci au cartographe Eric.
Voilà.
Merci Marc-Antoine. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante.
Idée au pluriel. @rfi.fr.
Retrouvez-nous également à la page ID de Facebook ou sur votre moteur de recherche préféré ou bien encore sur l'application RFI Pure Radio. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées, donc dans un instant un nouveau point sur l'actualité du monde.